des images de guerre à la guerre des images à l'occasion du festival Visa pour l'image à Perpignan. On rouvre aujourd'hui le grand livre des images avec le photographe Noël Kidu pour Syria on my mind, actuellement exposé au couvent des Minimes jusqu'au 16 septembre, accrochage d'une série réalisée pour Paris Match entre 2016 et 2018. Bonjour à vous Noël Kidu. Merci d'être avec nous. Chapeau d'abord à Véronique de Viguerie, distinguée pour sa couverture du conflit au Yémen, Visa d'or de cette 30e édition. Et lumière avec vous, si vous le souhaitez, sur les grands sujets qui ont marqué cette édition universitaire. Des Rohingyas de Paula Bronstein, à Raqqa libérée d'Alice Martins, ou encore Bigfoot de George Steinmetz sur les ravages de la production alimentaire mondiale. On imagine que vous avez, vous, Noël Kidu, aussi un regard attentif sur la production, le travail de vos confrères en un festival, en un Visa pour l'image à Perpignan. Est-ce que vous avez vu un certain état du monde ?
Alors, c'est toujours un état du monde un peu pessimiste, mais c'est en même temps un rappel de tout ce qui est défaillant sur la planète. Donc effectivement, comme on peut passer de salle en salle et voir des choses parfois un peu dures, mais c'est nécessaire de les rappeler parce que sans quoi, si on ne dit rien, on continue à comme ça, par exemple pour la pollution, pour les guerres, pour voilà, c'est un signal d'alarme, Visa pour l'image.
Il y a des photos qui vous ont, vous, marqué à Perpignan cette année. On pourra
parler
ensuite des photos qui vous...
J'étais assez touché par le travail de, j'ai oublié son prénom, Amra, un photographe de l'agence AP, qui, c'est un travail un peu rétrospectif sur son temps passé, évidemment, à Gaza. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très bien photographié. Et qu'on était vraiment dans, au cœur du drame de Gaza, parce que le drame palestinien, mais Gaza c'est encore un drame plus grave que dans les autres territoires.
Gaza, un territoire où vous êtes allé ?
Oui, un peu plusieurs fois.
Du coup, vous pouvez comparer l'œil de vos confrères au vôtre, ce que certains choisissent de retenir d'une situation qui n'évolue peu, malheureusement, ou empire.
Même qui se crispe.
Voilà, depuis des années. Ouais, et voir ce que lui a choisi de retenir, ce que vous en aviez retenu.
Oui, enfin, lui vit là-bas, c'est incroyable de travailler là-bas, tout le temps, c'est très oppressant hein, quand même, hein, Gaza, donc c'est une prison à ciel ouvert, donc il travaille avec, je pense qu'ils connaissent mieux les Gaza que moi, évidemment, mais voilà, on voit bien la vie quotidienne, avec sa difficulté, et aussi avec les frappes israéliennes quand elles arrivent.
L'état d'un monde en crise à travers cette édition, voilà ce que vous évoquez Noël Kidu, on pourrait parler aussi à propos de crise, de celle de votre discipline, de votre métier de photoreporter. C'est un terme qu'on entend en tout cas beaucoup et dans les mots, dans la bouche du directeur du festival Visa pour l'image, Jean-François Leroy, on comprend l'étendue de la crise aujourd'hui, à la fois une profession qui se paupérise, une profession aussi plus dangereuse aujourd'hui, a été aussi évoqué la question des femmes, de la place des femmes sur ces terrains de guerre aujourd'hui, un métier encore fermé aux femmes, mais avec quand même de plus en plus de femmes photographes qui s'y rendent. Et on l'a vu à travers le Visa d'or, remis donc cette année à Véronique de Viguerie. Elle est loin d'être la seule. Est-ce qu'il faut réinventer pour vous le photojournalisme pour sortir de cette crise ?
Je ne sais pas s'il faut le réinventer. Ce qu'il faut surtout réinventer, c'est des médias qui arrivent à payer les journalistes. Après, la démarche sera toujours la même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission d'aller raconter quelque chose qui le dépasse et qui paraît insupportable, donc c'est pour ça qu'il se déplace. Ensuite, maintenant, c'est comment arriver à financer le journaliste ou les photographes qui y vont, qui souvent y vont à leur propre frais, donc ça coûte très cher dans l'univers de guerre, beaucoup plus cher que dans un univers de paix, et donc j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes photographes qui y vont avec leur propre pécule et qui prennent des risques, ils n'ont pas d'assurance et tout ça, donc aujourd'hui on arrive à un niveau qui est un peu intenable pour les photographes et encore plus pour les jeunes photographes.
Une crise du modèle, une crise du financement, peut-être pas forcément des contenus, quoique on va le voir aussi. Si, là, ça y est.
La presse, malheureusement, la presse se vend de moins en moins. Donc, le tsunami Internet a fait son œuvre. À chaque fois, on peut se demander... Les ventes maigrissent tous les ans des plus grands quotidiens ou hebdomadaires. Et le problème, il est vraiment là. Donc, donc les journaux, ils sont pas forcément coupables. Si on n'achète pas leurs journaux, on peut pas payer les journalistes. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Je veux dire, il y a une responsabilité collective.
Vous, Noël Quidieu, après avoir été longtemps associé à une agence, à un collectif, l'agence Gamma, vous travaillez aujourd'hui en indépendant, vous partez là où vous avez envie de partir, ou vous attendez d'avoir une commande pour y aller?
Je sollicite les rédactions qui me font confiance et pour partir sur une histoire qui m'interpelle. Il m'arrive parfois de me produire comme un jeune, parce que c'est insupportable d'attendre et que voilà, avec plus ou moins de chances de réussite. Mais il faut savoir que ça engage beaucoup de frais et si on fait un non paru, on plonge dans le rouge direct.
Extrait d'un documentaire consacré à cette profession. On va y entendre le rendez-vous d'une jeune Canadienne photographe, Christina Daoset. Elle est à Visa pour l'image à ce moment-là. Un festival, une édition où les revues font aussi leur marché. Et elle a un rendez-vous avec National Geographic.
Hier, Christina a proposé au magazine Der Spiegel un reportage sur un moine allemand au sein d'une tribu kényane. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une rédactrice de National Geographic.
C'est le portrait d'un prince allemand qui a renoncé à son héritage pour devenir moine. Et ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce village. Je l'ai suivi et photographié. J'ai passé 2 semaines à ses côtés et je me suis concentrée sur lui. Je l'ai observé dans différentes situations.
C'est bien, ça me plaît. C'est clair qu'il est le personnage central de toutes ces photos. On comprend vite de quoi il retourne. Il faut faciliter la tâche des lecteurs. Et ça fonctionne bien avec ce genre d'histoire.
Extrait du documentaire « Femme photographe de guerre » de la réalisatrice allemande Sigrid Faltin, diffusé sur Arte il y a 2 ans. Noël Quidieu, on entend l'importance d'avoir une histoire, un personnage central, et surtout cette idée de devoir faciliter la tâche du lecteur. Est-ce que vous avez parfois des sujets, des images qui ont été retoquées parce qu'elles étaient jugées trop difficiles à comprendre?
Bien sûr. Bien sûr, et parfois elles sont... Je me souviens de mon reportage de Liberia qui a choqué beaucoup de gens, parce que c'était extrêmement violent, c'est la chute de Taylor en 2003, et ça s'est assez mal passé pour moi à mon retour, malgré que j'y avais passé quand même 3 mois. Newsweek a envoyé mes photos... au World Press, et j'ai eu un World Press feature, premier prix. Et à ce moment-là, le sujet s'est vendu. Mais avant, il était peut-être pas tout à fait correct. Il a fallu que j'aie le World Press pour qu'il devienne propre. Donc, effectivement, les photos étaient extrêmement violentes.
Il y avait notamment la photo de cet homme qui a été décapité, voilà. Avec un autre qui tient sa tête voilà. Par les cheveux.
Voilà,
moi, c'est celle... Et qui lui glisse une cigarette dans la bouche.
Voilà, que c'est celle qui a le choqué le plus. Mais il y en avait d'autres. Moi, les enfants soldats dans l'état où ils étaient, c'est-à-dire... complètement drogués, alcoolisés, drogués, poussés par les adultes à aller sur le pont tiré. C'était terrible de voir. La guerre, c'est toujours terrible, mais quand on demande à des gosses aussi jeunes de combattre, voir la peur dans leurs yeux, c'est plus dur encore pour moi quand on touche aux enfants.
Mais alors là, du coup, ces photos, elles n'ont pas été publiées?
Si, elles ont été publiées, puisqu'après, elles ont obtenu un prix très prestigieux. Donc après,
Qui les a publiées? Qui a osé les publier?
Le journal le plus courageux, ça a été Paris Match, qui a publié la première photo de cette décapitation. D'ailleurs, mais pas en grand, hein, parce que c'était trop dur. Et ensuite, on a pu en parler. Et voilà. Et il fallait quand même intervenir. Il y a un moment donné, notre travail, c'est de lancer un cri d'alarme, de montrer une photo qui réveille. Et à la suite de ça, s'il y a une intervention, c'est tant mieux, parce qu'on peut pas laisser indéfiniment des peuples s'étriper comme ça.
Donc quand Paris Match ou d'autres vous envoient là-bas, ils savent aussi que les photos que vous allez probablement ramener sont des photos qui vont être assez chocs ou assez difficiles à voir, à regarder. C'est une guerre que vous couvrez aussi, un conflit.
Bien sûr, le travail de photographe de guerre, c'est d'arriver à rendre lisible et compréhensible parce que, à tout le monde, parce que pour moi, la situation en guerre, je dirais pas qu'elle est banalisée, mais depuis 30 ans que je cavale, j'ai une certaine habitude. Donc, mais j'imagine qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Et donc, il faut arriver parfois un tout petit peu, avoir un tout petit peu deux pas en arrière pour pas être trop près et pour pas faire de la boucherie.
Rendre lisible, rendre visible aussi à travers vos photographies, Noël Kidu, quelle fidélité à la réalité à la fois factuelle et à la réalité émotionnelle vous vous fixez ou vous vous accordez?
Ben, j'essaie d'être le plus près de ma conscience, en fait, hein, de pas essayer de éviter les effets de téléobjectif, c'est très facile d'isoler le fond, enfin je veux dire, ou de super grand angle qui donne des visions extraordinaires. Donc déjà, si on emploie des optiques normales, c'est-à-dire 35-50, on a une vision que comme le public, et on est déjà plus près que si on emploie des effets d'objectifs ou après de couleurs. Enfin, on peut intervenir ou de noir et blanc sur le traitement. Voilà. Donc pour moi, l'idée, c'est d'arriver à rendre une image suffisamment regardable, intelligente et qui percute tout de suite. Et pour moi, souvent, une bonne photo, elle paraît tellement simple. Elle est bonne parce qu'elle est simple et parce qu'à ce moment-là, la majorité des gens la comprennent naturellement.
Mais ça se joue sur le terrain finalement, pas tellement après dans la manière dont on peut recadrer, retoucher une image, au moment où on prend la photo.
Toutes les photos, ouais. Et après on édite et on garde ce que l'on veut. Mais moi je shoote tout ce que je peux et après il y a des choses que j'écarte, que je trouve trop dures ou voilà, qui me satisfassent pas dans le récit que je veux faire à travers le feature. Enfin, le reportage.
Le reportage. C'est voilà. Le grand photographe James Natchway qui a fait l'objet d'une rétrospective récemment à la MEP qui disait: quand vous prenez la responsabilité de vous rendre sur un conflit avec votre appareil photo, c'est votre devoir de faire face à ceux que vous allez rencontrer, aussi difficile que cela puisse être, et de malgré tout rester ouvert à l'impact émotionnel qui peut être très fort et croire que l'information est un élément essentiel du processus de changement. Sur la violence des guerres, voici aussi ce qu'il disait.
In the field, what you experience is extremely immediate. What you see is not an image on a page in a magazine.
Sur le champ de bataille, votre expérience est extrêmement immédiate. Ce que vous voyez n'est pas une photo sur une page de magazine à des milliers de kilomètres de là, avec une publicité pour une montre Rolex sur la page d'à côté. Ce que vous voyez, c'est une souffrance non soignée, de l'injustice et de la misère. J'ai réalisé que si chacun pouvait se trouver là juste une fois pour voir de lui-même les traces laissées par une bombe au phosphore sur le visage d'un enfant, quel genre d'indicible douleur provoque l'impact d'une seule balle? Comment un éclat d'obus peut arracher une jambe? Si chacun pouvait voir par lui-même le chagrin et la terreur juste une fois, alors il comprendrait que rien ne vaut la peine de laisser les choses empirer au point que cela arrive à une seule personne et encore moins à des milliers.
Voilà, vous êtes aux yeux sur ces terrains-là, c'est ce que rappelle le grand photojournaliste américain James Natchway. Capturer des moments d'histoire, c'est aussi capturer forcément des moments d'humanité.
Oui, c'est lié. Parce que les gens, finalement, qu'on rencontre, ils sont comme nous, ils ont une famille, ils ont des besoins les mêmes que nous, ils ont leurs enfants ou leurs parents. Et sauf que là, d'un seul coup, ils sont précipités dans un cauchemar où d'un seul coup, leur pays est ravagé par la guerre, les maisons sont détruites, ils perdent X personnes dans leur famille, et ensuite on rentre dans un cycle de vengeance. Et après, comment fait-on pour arrêter le cycle de la vengeance?
Se pose alors toujours la question quand même de la dignité des personnes que vous photographiez, de l'image que vous allez retransmettre d'eux, de ce que l'on montre ou de ce que l'on ne montre pas. Il y a pour vous des limites au droit à l'information?
Les limites, c'est simplement de dire la vérité, hein. Pour moi, c'est il faut qu'elle soit claire.
Pour le reste, on peut tout montrer.
Non, mais après, c'est comme l'écriture, vous savez, la photographie. Il y a des gens qui écrivent très magique, ce sont des magiciens de la plume, et d'autres moins. Donc, ils vont dire la même chose, sauf que l'écrivain ou le journaliste habitué va l'écrire plutôt mieux. Le photographe, il voit la même chose que tout le monde, sauf qu'il sait l'écrire un peu. Voilà, un peu mieux. Si. Et il arrive à le traduire, il essaye de le traduire pour les autres. C'est son métier.
Mais quoi? Est-ce que nos regards sont pourtant prêts à ça? C'est ce que dit aussi le photographe Kenneth Jarek. Si on est tous, nous les hommes, assez forts pour faire les guerres, il faut qu'on soit aussi assez forts pour les regarder, ces guerres-là.
Oui, on doit, mais vous savez que c'est très difficile. Par exemple, quand un grand journal comme Paris Match fait une couverture sur une guerre, il perd des milliers de ventes. C'est très dur, c'est très courageux pour les journaux qui ont encore le courage de publier des images de guerre, parce que ça fait chasser la clientèle. Ils préfèrent savoir je ne sais quelle chose sur quelles sont la marque de chaussures de Melania Trump. Ça se vend très bien, ça.
Les guerres ne font plus vendre.
Ça n'a jamais vraiment fait vendre beaucoup. Et je me souviens dans les agences comme Gamma, où j'ai travaillé très longtemps, ou Sigma, les photographes qui faisaient les conflits, c'était quand même globalement les plus pauvres.
Alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous partez encore?
Mais parce que c'est insupportable de rester le cul sur son siège et de dire on s'en fiche, on est en Europe, on est tranquille. Et là maintenant, on voit que ce qui se passe à l'extérieur finit par contaminer l'Europe. C'est nouveau, ça fait 30 ans qu'on essaie de leur dire. Enfin, moi, 30 ans, mais d'autres plus. Comme Chauvel, ça doit faire 50 ans qu'il essaye de prévenir que la guerre, c'est comme un virus et que ça se propage. Et maintenant qu'on a aujourd'hui des attentats sur notre sol en France, et d'un seul coup, il y a une espèce de prise de conscience que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est pas étanche, ça arrive jusqu'à chez nous.
30 ans que vous risquez votre peau en partant, 30 ans que vous racontez, que vous témoignez de ce qui se passe ailleurs et que vous rapportez ces images. Tout ça pourquoi? Est-ce que vous vous demandez parfois, au fond, est-ce que c'est bien utile puisque rien n'a changé, que la guerre continue? Je vous propose d'écouter un extrait de Femmes photographes, une fois encore, ce documentaire de Sigrid Faltin, autour de la mort de la photographe de guerre et journaliste française Camille Lepage. C'était en mai 2014 en République centrafricaine, un théâtre de guerre qu'elle couvrait.
La Canadienne Christena Dowsett, 28 ans, s'est installée au Kenya en tant que photographe indépendante.
Quand elle a été tuée, j'ai presque perdu ma foi dans le photojournalisme. Je me disais, elle a risqué et même sacrifié sa vie. Pour raconter ces histoires. Et pourtant, la guerre continue. Je me demande parfois ce qui a changé en Centrafrique et au Soudan du Sud. Elle a sacrifié sa vie pour raconter l'histoire de ceux qui ont fini par la tuer.
Noël Kidieu.
Oui, c'est le triste sort qui est réservé à certains d'entre nous, mais il est réservé aussi aux casques bleus. Combien de casques bleus sont morts au Mali? Et dans d'autres endroits, ils étaient là pour une intervention de paix. Et ils sont, eux aussi, on n'en parle jamais de cela. Enfin, c'est vrai qu'ils sont rarement efficaces, mais il n'y a pas que les journalistes qui meurent sur le terrain. Voilà, je suis pas pour l'attitude du héros. J'aime pas ça.
Invité de la grande table des idées aujourd'hui jusqu'à 13h30, le photo-reporter Noël Kidieu, photographe indépendant, exposé actuellement au festival Visa pour l'image avec sa série Syria on my mind.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Syria on my mind, un conflit qui dure depuis 2011 aujourd'hui. Vous y êtes retourné, vous avez rapporté une série de photos qui est actuellement exposée à Perpignan dans le cadre du festival Visa pour l'image, Noël Kidu. Quand vous pensez à la Syrie, quelles images vous reviennent à l'esprit pour détourner le titre de votre exposition ?
Une grande tristesse. Parce que le pays est ravagé, les gens sont atteints. Quand je les ai vus sortir de la Ghouta ou d'Alep, qui étaient coincés par les djihadistes qui les s'en servaient comme boucliers humains, ce qu'ils ont fait à Mossoul, et ce qu'ils feront demain à Idlib, voir ces gens arriver dans l'état où ils arrivent, affamés, assoiffés, complètement... Je sais pas, les conséquences sur leur psychisme, ce qu'ils ont vécu, ça va leur durer combien de temps? Tous ces milliers de gens blessés, parce que les morts, bon, ils sont annulés, mais les blessés, ils devront vivre toute leur vie avec leur handicap et tous les traumatismes qui vont avec. Et en plus, on relève pas un pays aussi vite qu'on le détruit, donc... l'Irak comme la Syrie aujourd'hui sont des pays totalement exsangues, donc c'est triste de voir ça, et en plus c'est dangereux parce que dans la misère c'est très facile de trouver des gens qui sont prêts à donner leur vie pour changer certaines choses au nom de Dieu ou d'autres choses. Donc la misère n'attise que les haines. Et quand je vois l'état de misère que l'Irak et la Syrie, où ils en sont, j'ai de la peine pour eux, pour la population, tout entière. Et il y a pas, parce que les populations, elles subissent les guerres. C'est pas elles qui décident quoi, comment, où, que ce soit Saddam Hussein, Bachar el-Assad ou l'État islamique. La population, elle, se retrouve coincée dans les taux et les pertes sont souvent c'est sur eux qu'on les fait.
Vous étiez en 2016 à Alep, vous étiez aussi récemment, en mars dernier, du côté de Damas, et vous avez vu ce qui s'est passé à la Ghouta, cette situation qu'on a de la peine à décrire et qui a aussi fait l'objet d'une guerre des images. Alors là, pour le coup, comment vous avez choisi d'aborder ce sujet-là ?
La Syrie ? D'abord, c'est très difficile de pénétrer dans ce pays. Il faut arriver à avoir un visa, ce qui est très long. Donc,
il faut forcément des autorisations.
Mais partout, il en faut, même pour entrer à la maison de la radio. Et on a un checkpoint en bas, non ? Et il en faut partout. Donc là-bas aussi, donc c'est évidemment pas facile. Bon, effectivement, dans des situations comme à Sarajevo, dans une ville encerclée, on faisait ce qu'on voulait, on connaissait un peu tout le monde, et on faisait un peu... C'était très, 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 très petit, c'est une ville. Mais quand c'est très étendu, comme c'est le cas pour tous ces conflits, c'est plus compliqué.
Mais alors on suit, dans ces cas-là, la progression du conflit. Ça, c'est la première chose.
Bah oui,
vous allez à Idlib, forcément. Ou du côté d'Idlib, vous essayez de vous rapprocher de la zone de conflit pour comprendre ce qui s'y joue.
Bah bien sûr, je pense que mon métier, c'est d'essayer d'aller là où il n'y a pas d'informations. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire se dire, bon, on a des informations ici, mais là, on n'en a pas. Donc, pour que le public soit informé réellement, il doit avoir de l'information de tous les côtés. Par contre, si je pouvais aller à Idlib à l'heure où on parle, je m'y précipiterais. Le problème, c'est que l'État islamique, Al-Qaïda, on va pas rentrer dans la myriade de groupuscules islamiques qui sont à l'intérieur. J'ai pas tout à fait envie de me retrouver dans la situation de Didier François, Édouard Elias, ou voire pire, d'être décapité par ces gens-là. Donc, de l'autre côté, on n'est pas dans une grande démocratie, mais je m'étais pas aperçu qu'il y en avait non plus dans le monde arabe. Mais en tout cas, on va pas me décapiter pour l'instant. On m'a jamais agressé. On va pas me prendre en otage et me revendre d'un gros groupuscule à un autre. Donc ça permet d'avoir un côté. L'autre côté, qui c'est qui est ? Là, on peut se poser la question de qui fait les photos. et dans quelles conditions et à qui ils appartiennent comme groupe.
Alors cette question vous la posez parce que dites-lib aussi, il y aura probablement des photos qui vont commencer à circuler à travers les réseaux sociaux. C'est la difficulté avec un conflit comme le conflit syrien, c'est qu'il y a une profusion d'images suscitées depuis 2011, des images professionnelles et des images amateurs aussi qui se font concurrence dans nos imaginaires. C'est pas toujours facile de distinguer d'où viennent ces images, quelle en est la source. Est-ce que pour vous toute image est sujette à caution?
Bon, on doit se poser la question de qui l'a fait quand même. Hein. Faut se rappeler quand même que l'État islamique avait un organisme de propagande avec un journal, avec des photos de très bien photographiées souvent, bien filmées. On sentait qu'il y avait des gens qui avaient été formés pour ça et qui travaillaient pour l'État islamique. Ces gens-là sont toujours là. Demain, ils vont envoyer les images en disant qu'ils sont civils. Donc, aujourd'hui, je pense que la seule garantie, enfin, on a plus de garanties quand on connaît les journalistes, on sait qui ils sont, et depuis des années, que de prendre des images qu'on ramasse ou qu'on... ça coûte pas cher par contre, hein, ça, évidemment, et qui sont peut-être des images de propagande, de manipulation de l'État islamique ou d'Al-Nusra. Voilà, c'est comme si quand on prend ça, c'est comme si on prenait réellement les photographies du régime syrien. Je pense qu'il est pas, ce serait pas objectif. Donc, quand on récupère toutes ces images-là, c'est pas sûr que ce soit objectif, et parce que eux, ils sont en guerre et les médias font partie de l'arsenal de la guerre, autant que les obus. Hein.
C'est ce qu'on appelle une guerre d'images. Mmh. Et chacun a son réseau, son network, a aussi son organe de presse. C'est le cas du côté du régime syrien, c'est le cas aussi du côté des rebelles. Chacun pourvoit l'opinion publique internationale en images. Vous comprenez la position d'un Claudel Kahl, le correspondant du Média, qui en février dernier a choisi, avec son organe de presse, de ne publier aucune image, de ne diffuser aucune image. Image du conflit de la Ghouta orientale, estimant que de toute façon la provenance de ces images aujourd'hui n'était plus claire et qu'il fallait pas tomber dans le sensationnalisme. Voilà, c'était plus forcément de l'information.
Je ne connais pas cette histoire, mais je ne sais pas qui c'est. Il a fait ses photos ou il a récupéré des images
Il était le correspondant à Beyrouth pour le Média et c'était question de la diffusion sur ce conflit.
Moi, je trouve un peu insupportable de voir en général beaucoup de papiers qui sont écrits dans des grands quotidiens français très célèbres, signés de Beyrouth, d'Istanbul, un peu de partout, mais pas sur place. J'ai même vu des papiers qui décrivaient la vie à Alep depuis Beyrouth. Donc moi, je peux vous raconter Idlib depuis le studio aussi. Hein.
Donc mais vous ne le feriez pas, ce serait
non,
pas
Non, je ne le
ferais
pas. D'accord. Mais il y en a qui se gênent pas. Ouais. Donc ça, c'est quand même un peu irritant. Donc ils ont une idée politique générale et après, ils s'accommodent. Et grâce à Internet, on est tellement dans le copier-coller que finalement, on peut toujours écrire quelque chose sur quelque chose qu'on n'a pas vu.
La question qu'il pose, c'est aussi, est-ce que maintenant, à chaque fois que vous êtes sur le terrain, vous posez-vous la question de servir, si vous servez ou pas une cause à travers les images que vous produisez? Comment vous parvenez à faire en sorte de vous situer toujours sur la ligne de front sans basculer dans un camp ou dans l'autre? À moins que vous acceptiez éventuellement aussi ce parti pris.
Vous savez, j'ai travaillé avec tellement de militaires ou de moudjahidines et un peu partout. Je suis pas là pour prendre position. Je suis là pour dénoncer. Je suis pas un militant. Donc, je peux être même dangereux pour les gens qui me font confiance, c'est-à-dire que s'ils font quelque chose qui me plaît pas, moi, je vais le montrer. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tellement angoissés et fermés pour les autorisations dans certains pays, parce qu'ils ont peur qu'on arrive à faire jaillir une image qui dénonce. Comme l'image que vous citiez tout à l'heure au Liberia. Et parfois, quand c'est trop, et d'un seul coup, il y a une réaction en chaîne qui se crée, et là, l'opinion publique réagit, et là, à ce moment-là, enfin, on a fait notre métier.
Et vous allez montrer, sans édulcorer, est-ce qu'aujourd'hui cette tendance à l'esthétisation aussi des images, à les embellir, est quelque chose qui vous choque ou vous travaille?
Ah, moi, ça me choque carrément. Hein. J'étais à Visa, il y avait des très belles expositions avec de très bons photographes, mais certaines expositions, c'était des couleurs martiennes. Tellement il joue avec Photoshop.
Moi, une photo de guerre n'a pas pour but d'être belle.
Guerre ou pas guerre, parce qu'il n'y a pas que la guerre. Ouais. Et guerre ou pas guerre, je pense que le métier de photojournaliste, c'est de rendre quelque chose qui existe, pas avec des couleurs qui n'existent pas, comme on en voit de plus en plus.
Merci beaucoup à vous, Noël Kidu, d'être passé par nos studios. Syria, on my mind, vous n'avez pas dit que vous allez repartir du coup pour Idlib ou il n'y a pas d'autorisation pour l'instant?
Mais j'attends, impatiemment.
Vous les avez demandé en tout cas.
Voilà.
Syria, on my mind, est exposée actuellement au couvent des Minimes. C'est à voir jusqu'au 16 septembre dans le cadre du festival Visa pour l'image à Perpignan. France Culture, il est 13h26. Et oui, on a appris tout à l'heure la disparition du chanteur Rachid Taha, le chanteur originaire d'Algérie, aux multiples identités musicales, passé du rail à la techno, au rock'n'roll et au punk. Il s'est éteint à l'âge de 59 ans. Celui qui avait appris à parler et écrire l'arabe en écoutant des chansons d'Oum Kalsoum avait fait ses études en 83 avec son groupe Carte de Séjour et sa célèbre reprise de Douce France de Charles Trenet. La série documentaire qui s'intéresse cette semaine aux musiques africaines, une histoire parisienne, était consacrée au prince du rail. On écoute sa voix et on l'écoute chanter.
Votre livre est plein de poèmes et de métaphores. Pourquoi un tel amour des mots?
Pourquoi?
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a que ça qui existe. Je ne peux pas avoir de l'amour pour les armes. Il y a des choses que j'ai d'amour des femmes ou les mots. Les mots, en fait, c'est ce qui nous guide. Les mots, c'est l'arme indestructible. C'est l'arme qui nous permet d'avancer. Et qui nous permet de sourire, qui nous permet de trouver le regard. Les mots nous donnent le regard des autres. Les mots, c'est un peu les lunettes des autres.
Un grand, grand classique du répertoire algérien que Rachid Taha avait remis au goût du jour et avait fait circuler partout dans le monde dans les années 90, issu de l'album Carte Blanche sorti en 97. Voilà, on a appris aujourd'hui, ce midi, la mort de Rachid Taha, le chanteur et musicien. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Mayan Escovic, à Henriette Delacroix, à Henri Leblanc, à Laura Dutèche pour la préparation et programmation de cette émission. Merci à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide précieuse et à Perret Legras à la réalisation avec l'aide de Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous.